Bonjour, très chers amis et joyeux contribuables. Administrations, institutions, associations, nous vous aidons à les rendre plus abordables, mieux comprendre vos droits et obligations. C'est votre vie pratique sur Radio B.
Bonne année à toutes et tous. Compte tenu de la qualité de l'année 2020, nul doute que l'année 2021 a un sacré potentiel d'amélioration. Pour changer un peu des informations que nous entendons tous les jours depuis le mois de mars dernier, cette nouvelle chronique sur votre vie pratique traitera de nos animaux de compagnie. Nous aborderons différents sujets allant du bien-être animal jusqu'aux soins à leur apporter, en passant par nos obligations dans ce domaine. Et pour répondre à nos questions, quoi de mieux que le métier de vétérinaire ? C'est la raison pour laquelle nous accueillons la docteure Karen Charlet qui exerce à Saint-Denis-les-Bourgs. Bonjour docteur Charlet.
Bonjour.
Si vous le voulez bien et avant toute chose, nous allons découvrir votre profession. Quelles prédispositions ou qualités, si vous préférez, sont nécessaires pour devenir vétérinaire ?
Il faut avant tout aimer les animaux, mais il faut aussi aimer les gens parce que l'animal ne vient pas tout seul à la clinique. Et c'est souvent le plus difficile à gérer.
Il faut accueillir l'animal, mais aussi accueillir son propriétaire.
Voilà.
Quel est le plus difficile à gérer des deux ?
Ah, c'est peut-être bien celui qui a deux pattes. Hein.
on va le retenir. Depuis combien de temps vous exercez ?
16 ans.
16 ans, et quelle formation vous avez suivie ?
Alors, il faut faire l'école vétérinaire, dans tous les cas, il y en a 4 en France. Et avant ça, il faut faire... Alors, les cursus, ils ont un peu été modifiés, probablement, avec toutes les réformes du bac et tout. Alors, je ne sais pas trop comment ça marche aujourd'hui, mais... Fallait avoir un bac scientifique, une prépa vétérinaire et ensuite un concours et l'école véto en 5 ans.
Ça prend combien de temps au total ?
En moyenne 7 ans.
Donc on peut faire un parallèle avec un médecin ?
Oh, je crois que même médecin c'est pire parce qu'après ils ont leur spécialisation aussi. Enfin nous on peut en avoir aussi mais ouais, ceux qui sont chirurgiens tout ça ils ont encore quelques années de plus il me semble.
Pour ce que vous en connaissez, est-ce qu'on a assez de vétérinaires en France ?
Non. Il y a beaucoup d'étudiants qui sortent de l'école, mais on ne sait pas trop où ils vont, en fait. On se rend compte qu'on recherche beaucoup de personnes pour travailler avec nous et que c'est très difficile à trouver. Alors, je pense que ça dépend aussi des régions, hein, parce que dans les grandes villes, c'est sûrement plus facile, mais on manque, dans les zones rurales, il manque beaucoup de vétérinaires en rural. Et même en canine, on cherche pas mal quand même. Hein.
Pour s'installer, c'est assez simple. Ça serait assez simple si on manque de vétérinaires.
Oh, je pense qu'il y a des endroits où ce serait très simple, oui.
Quelqu'un qui veut faire vétérinaire, il a donc des possibilités de pouvoir s'installer et de gagner correctement sa vie.
Alors, s'installer sans problème, gagner sa vie, ça va dépendre.
Je m'attendais à la réponse, oui.
De plein de choses, hein, parce que faut qu'il y ait les clients, faut qu'il y ait... S'installer, créer de toutes pièces, ça peut se faire, hein, surtout qu'on n'a pas de contraintes particulières. On pourrait s'installer un peu n'importe où en soi. Après, il faut développer une clientèle quand même.
Oui, bien sûr, oui. Ou reprendre un cabinet existant.
Ou reprendre, c'est plus facile en reprenant et au moins on a une clientèle de base, on va dire.
Je vais changer un peu de sujet. Les médecins ont l'ordre des médecins. Est-ce qu'il existe quelque chose de similaire pour les vétérinaires ?
Oui, il y a l'ordre des vétérinaires.
Quelle est sa fonction ?
Eh bien, on ne sait pas toujours trop. Ils sont censés quand même défendre la profession vétérinaire. Après, ils interviennent quand il y a des litiges avec des clients, quand il y a des litiges entre vétérinaires.
Ah, ça peut arriver, ça ?
Oui, ça peut arriver. Oui. Il y a des endroits où il y a un petit peu des guéguerres entre confrères. Et oui, ça arrive, malheureusement.
On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et dans le cabinet vétérinaire proprement dit. Quels soins et quelles interventions vous pratiquez ?
Alors moi, je ne fais que de la canine, donc les chiens, les chats et les petits animaux de compagnie. On fait tout ce qui est... On est généraliste, en fait. Hein. On fait beaucoup de choses. On fait les consultations de médecine classique. Et puis après, on fait tout ce qui est opérations, les opérations de convenance, les stérilisations, les identifications, qu'on aimerait bien voir un peu plus nombreuses. Les chirurgies des tumeurs, choses comme ça. On fait des détartrages, on fait des prises de sang, des examens, des radios, des échographies. On est un peu multifonction.
On accueille l'animal, vous faites au mieux avec le propriétaire. Il ne faut pas avoir peur du sang non plus pour faire vétérinaire.
Non, mais paradoxalement, moi je crains énormément le sang sur les humains.
Le sang sur les humains, mais ouais. Pas le sang sur les animaux.
Non.
C'est possible, ça ?
Ah, ben c'est possible. Je suis une spécialiste pour tomber dans les pommes sur les humains, mais par contre, les animaux, non.
Ah, ça, c'est à retenir. Ça va intéresser les gens qui nous écoutent.
Ça n'est pas un critère, voilà. Ça veut... Et puis, une différence entre regarder et faire.
Ah oui. Oui. C'est pas tout à fait la même chose.
Non. Quand les petits jeunes ils viennent en stage, des fois, ils ont un petit... ça leur arrive de tomber dans les pommes, mais c'est... ça veut rien dire. C'est pas pour ça qu'ils pourront pas faire veto derrière.
Comment vous les réveillez ?
Oh, en général, ils se réveillent assez vite. On attend qu'ils reprennent leurs esprits avant de les faire se relever, surtout.
Donc, vous nous avez dit que vous accueillez comme animaux de compagnie les chiens, les chats.
Et beaucoup, moi, je fais beaucoup les petits animaux aussi.
Les cobayes ?
Les cobayes, les furets.
Les furets, il y a des furets comme animaux de compagnie ?
Il y en a énormément en France. Dans la région, pas des masses. Hein. Mmh. Moi, j'en ai pas beaucoup, mais quand j'étais sur Paris, on en avait beaucoup. Et c'est un animal, ouais, c'est... aux États-Unis, c'est le troisième animal de compagnie. En France, je sais pas s'il y en a autant, mais oui, c'est un animal assez prisé quand même.
Cobaye ?
Cobaye, beaucoup de lapins.
Lapin, oui, je l'avais noté aussi. Souris, rat.
Un petit peu, un peu moins. Mmh. Hamster aussi, un peu moins, parce que les gens les font moins soigner, vu que c'est des toutes petites bêtes qui coûtent pas très cher à la base.
Oui.
Ça coûte plus cher d'aller chez le veto que de changer de la petite bête. Mais
de faire soigner les petits animaux.
Ouais. Mais les lapins, on en fait pas mal quand même. Lapins et cobayes, on en fait pas mal. Chinchilla aussi. Un petit peu des oiseaux, on fait beaucoup de poules.
Les oiseaux. Ah ben j'avais noté cobayes, lapins, souris ou rats, tortues.
Ouais, un petit peu aussi.
Poule ou canard ?
Canard, pas trop. Poule, beaucoup.
Poule.
Beaucoup de gens ont des poules de compagnie. Enfin,
serpent ou lézard ?
Moi, je fais pas.
En plaisantant un petit peu, les poissons rouges ?
Non plus.
On soigne
après,
pas les
ça,
poissons
c'est
rouges.
Plus des problèmes de milieu, d'aquarium, de gestion de l'aquarium. Et
un vétérinaire peut intervenir là-dessus ?
Oui, si ça l'intéresse, qu'il est un peu passionné là-dedans, je dirais qu'à la rigueur, les animaleries sont assez. Celles qui vendent des poissons sont plutôt assez bien formées pour expliquer aux gens les conditions optimum pour ces animaux-là. Donc, à la rigueur, je crois qu'ils s'y connaissent mieux que moi sur ce coup-là.
Aucun animal de bande dessinée, Donald, Mickey, Idéfix ou le chien d'Obélix ? Non, vous n'en voyez pas ?
Oh, on en a certains qui y ressemblent. Hein.
À ce point ?
Ouais, un petit peu.
Sur ces quelques plaisanteries, on va passer à notre petite pause musicale et on va chercher Mirza avec Nino Ferrer.
Vous n'avez pas vu Mirza ? La 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 la. Vous n'avez pas vu Mirza ? La 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 la. Vous n'avez pas vu Mirza ? Oh la 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 la. Où est donc passé ce chien ? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien ? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien ? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici ? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici ? Sale bête, va. Veux-tu venir ici ? Où est donc passé ce chien ? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien ? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien ? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici ? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici ? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici ? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici ? Oh, satané Mirza.
Retour au studio avec la docteure Charlet, vétérinaire à Saint-Denis-les-Bourgs. Après en avoir appris un peu plus sur son métier, nous allons passer à un autre sujet, un petit peu plus en rapport avec l'actualité du moment. Avec la crise sanitaire et les deux confinements, docteur, qu'est-ce que vous avez constaté ? Est-ce que les gens ont adopté ou se sont séparés de leurs animaux de compagnie ? De votre point de vue, de ce que vous voyez ?
Il y a eu un peu de panique au tout début du premier confinement, où on a eu beaucoup de questions sur la contagiosité des animaux sur l'homme, ou inversement. Là, maintenant, les gens, non, ils ont l'air d'avoir compris. Ça a pas... J'ai pas vu d'influence spécifique.
La SPA a laissé entendre qu'il y avait eu pas mal d'adoptions. Oui. Est-ce que ça s'est retrouvé dans votre cabinet pour les soins ?
Ah, on a eu quand même pas mal de petits chatons, de petits chiots. Les gens ont pris, oui. Il y a eu plutôt un phénomène, effectivement, de gens qui ont pris le temps de prendre un chiot parce qu'ils avaient le temps.
Ils avaient plus de temps pour eux, donc ils ont pris un chiot.
Ils étaient chez eux, ils avaient le temps, ils ont pris un chien. Après, c'est pas l'idéal non plus parce qu'ils peuvent pas aller, pouvaient pas aller à l'école du chiot, ils pouvaient pas tellement se déplacer non plus pour la socialisation. Mais il y en a beaucoup qui ont pris des chiens à ce moment-là, effectivement, et des chats.
Vous avez parlé de l'école des chiots, c'est vraiment utile.
Ah, ça, je pense que ça aiderait. Il faudrait presque obliger un peu les gens à y aller parce que ça aide à communiquer correctement avec son animal. Le chien, il est content, il voit d'autres chiens, il y a des phases de jeu avec les autres, donc ça maintient quand même le contact entre chiens. Et puis, ça évite, souvent on a des problèmes avec nos animaux parce qu'on communique mal avec eux et qu'on ne se comprend pas, en fait.
Vous le constatez ?
Oh oui, il y a quand même beaucoup de problèmes de comportement, d'idées reçues sur ce que devrait être un animal et ce qu'il devrait faire, comme si c'était normal que le chien, finalement, obéisse au doigt et à l'œil et fasse ce qu'on a envie, quoi.
Et justement, dans ce cadre-là, pour ces nouveaux propriétaires, comme pour les autres hein, d'ailleurs, vous pouvez nous faire un rappel des obligations ?
Les obligations légales, c'est l'identification des animaux, chiens, chats, furets, avec une puce électronique ou éventuellement un tatouage s'ils doivent rester sur le territoire français. Et ça, c'est vrai que autant les chiens, ça va à peu près, autant les chats, on a plus de mal
à faire comprendre.
À faire passer le message qu'il faut qu'ils soient identifiés, que c'est obligatoire. Il y a des amendes, hein, mais comme c'est pas sanctionné en fait, donc les gens s'en moquent un petit peu. Qu'après, derrière, quand ils le perdent,
pour le retrouver.
Ben voilà, on a beau leur dire, écoutez, maintenant ça va être compliqué, hein. Pour peu qu'ils soient noirs ou simplement tigrés, ben un chat noir et un chat noir, c'est pas facile, quoi.
En dehors de l'identification, les soins, les vaccinations ?
Les vaccinations, elles sont pas obligatoires, sauf si vous voyagez.
Elles sont pas obligatoires, les vaccinations ?
Non, elles sont pas... La France est indemne de rage, donc on n'a pas d'obligation de vacciner. C'est obligatoire si vous quittez le territoire français, et puis ça va vous être demandé à l'école du chiot, dans des pensions, des choses comme ça. Là, ils vont vous demander que les animaux soient vaccinés, mais en soi, ils sont pas obligatoires. Les soins ne le sont pas non plus. Après, c'est une histoire de conscience, de laisser son animal souffrir ou pas, quoi.
Exactement.
Mais c'est pas obligatoire.
Je pensais pas ça, que ça n'était pas obligatoire.
Non, c'est devenu plus habituel parce que le chien, le chat fait partie de la famille.
Oui.
Au même titre que les enfants dans beaucoup de maisons. Donc, en fait, il est malade, il le soigne.
Si je pars à l'étranger, comme vous l'avez évoqué, il me faut un passeport pour mon chien, par exemple ?
Oui, il faut une puce électronique, un passeport, un vaccin rage. Et après, selon les pays, il faut se renseigner. Hein, parce qu'on ne part pas comme ça dans certains pays. Il y a des endroits où il faut faire une prise de sang au chien aussi, ou au chat, avant de partir, pour que non seulement il soit vacciné contre la rage, mais qu'il ait développé des anticorps. Sinon, ils ne peuvent pas passer la frontière si l'animal n'a pas les bonnes... Ça va plus être le problème pour revenir que pour partir, d'ailleurs. Il y a des pays où ils pourront partir sans problème, mais par contre, ils ne pourront pas repasser la frontière pour revenir en France.
À ce point-là ?
Oui, s'ils vont dans des pays où il y a beaucoup de rage, comme le Maghreb, comme l'Europe de l'Est, il y a un risque.
Il y a un risque, oui,
donc,
effectivement.
Donc, du coup, s'ils travaillent bien fait, ils vont se faire arrêter à la douane, ils ne pourront pas passer.
Je ne sais pas si vous avez des informations dessus, mais avec le Brexit, ça va être un peu plus compliqué.
Eh bien, ils avaient énormément assoupli les choses avec l'Angleterre. Il n'y avait plus que besoin du passeport, du vaccin rage. Ils demandaient des antiparasitaires dans les 48 heures avant. Mais ils avaient énormément supprimé de choses. Il n'y avait plus de quarantaine, il n'y avait plus de prise de sang. Eh bien, je ne sais pas. On n'a pas les informations sur les nouvelles réglementations. Là, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, la personne qui veut aller en Angleterre, c'est une bonne chose. Parce que je ne saurais pas leur dire ce qu'il faut faire.
Je crois qu'en matière de Brexit, il y a beaucoup de monde qui attend.
Oui, je crois que de toute façon, il n'y a encore pas grand-chose qui est très, très défini. Hein. Ça vient seulement de passer. Donc, oui. Est-ce qu'ils vont redurcir les conditions ? Je ne sais pas.
Je change de sujet. On entend beaucoup parler ces dernières semaines, ces derniers mois, même depuis quelques années, de bien-être animal. Quel est le point de vue vétérinaire sur ce sujet ?
Oui, c'est vrai qu'on en entend plus parler et même nous, on en tient beaucoup plus compte dans nos traitements. On fait plus attention à la douleur dans les opérations, dans les maladies qu'on sait douloureuses. C'est quelque chose qui est important et que je trouve important effectivement de pas laisser l'animal repartir sous prétexte qu'il marche, qu'il court, qu'il a l'air d'aller bien et se dire il a pas mal, on lui a juste ouvert le ventre. Donc on y fait plus attention quand même et les gens ils sont plus sensibles. Puis vous avez des chiens plus expressifs là-dessus aussi, mais pour ceux qui se plaignent pas, ça veut pas dire qu'ils ont pas mal quoi. Mais puis oui, les gens font plus attention maintenant quand même aux qualités de vie des animaux. Vont facilement aller juger des voisins qui vont pas faire ce qu'il faut.
Et les propriétaires vous en parlent ?
Oui, on le voit avec. On connaît une avocate qui s'occupe que des animaux et qui du coup nous raconte un petit peu aussi les affaires sur lesquelles elle intervient, les choses comme ça. Les gens ils sont quand même plus sensibles, même sur les gros animaux, les chevaux maltraités, les choses comme ça. Il y a quand même maintenant des gens qui interviennent. Un chien qui serait laissé sur un balcon en permanence. Les gens maintenant font quand même attention à ça et se rendent compte qu'ils ont une sensibilité, ces petites bêtes.
Je rechange de sujet une nouvelle fois. Si vous deviez donner des conseils en matière de précautions qu'il faut prendre avec un animal de compagnie, pour soi-même ou vis-à-vis des enfants ?
Vis-à-vis des enfants, oui, c'est sûr, quand on prend un chien, un chat, potentiellement, il peut mordre. Il faut apprendre aux enfants à communiquer avec l'animal, ce qui est souvent le plus dur. C'est pas l'animal de faire les efforts, c'est à nous. C'est à nous d'expliquer aux enfants ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui est dangereux, et surtout à repérer les signaux quand l'animal il est en train de vous dire « stop ».
Ça ne va pas.
Ça ne va pas. Là, ça m'énerve, je vais mordre, ou là j'ai mal. Et ça, ce n'est pas facile, mais c'est vrai que c'est important de leur expliquer, parce qu'en plus, c'est un bon apprentissage. S'ils arrivent à bien gérer les animaux, ils seront des meilleures personnes, je pense quand même. Parce que quand on aide un animal, à partir de là, théoriquement, on va aider un humain s'il y a un problème aussi.
Vous pouvez nous donner quelques exemples d'alerte d'un chien, d'un chat, quand ça ne va pas avec un enfant ?
Eh bien, certains vont être très clairs, ils vont grogner. Donc ceux-là, à la rigueur, c'est les plus faciles. Mais le problème, c'est que les enfants ne comprennent pas toujours, et je vois bien à la maison, rien qu'à la maison, le message, le chien grogne, stop, on le laisse. Mais je lui faisais un câlin. Oui, mais là, apparemment, il n'est pas d'accord sur le câlin. Et quand il grogne, c'est assez facile. Les chats, ils vont plutôt avoir la queue qui va bouger, les oreilles qui vont s'aplatir, les petites pupilles qui vont se dilater. Donc ça, il faut qu'ils arrivent à le percevoir avant que le coup parte. Le chat va être moins tolérant en général, hein. Il va quand même donner le coup de patte bien plus vite que le chien. Mais c'est vrai que c'est pas facile de leur expliquer. Il y a une histoire de ressenti beaucoup, hein. Il faut qu'ils apprennent à communiquer avec l'animal. Et parfois, ça leur parle pas parce qu'ils sont dans leur monde, parce qu'ils jouent, parce qu'ils se rendent pas compte en fait.
Rapidement, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Berlioz ? Je crois que son histoire est un peu particulière.
Ah, Berlioz, c'est notre mascotte à la clinique qu'on avait récupérée suite à une énorme plaie sur le dos. Il avait eu une morsure qui s'était infectée. Les gens ne l'avaient pas vu, mais c'était un chat qui était quand même beaucoup en extérieur. C'était un chat de ferme et la plaie était très, très délabrante. Et les soins, on savait que ça allait être un peu compliqué, surtout quand au bout de quelques jours, on a vu que la première suture initiale était en train de lâcher. Et les gens ont eu des soucis pour pouvoir le garder. Il y avait un mois où ils étaient absents. Donc le chat, théoriquement, on n'était pas censé le garder. On était censé l'endormir. Et en fait,
il
était tellement gentil. À ce moment-là, il était vachement plus cool, en fait. Il se laissait très, très bien faire sur les soins. Et puis, mon assistante, elle m'a dit « Allez, on va pas le piquer. Bon, on va le garder. » On s'est dit, on va le soigner, puis on va voir si ça marche. On verra ce fait avec lui. Et puis, finalement, on l'a soigné sur de longs mois. Et puis, on s'y est attaché. Et puis, c'est devenu notre patate.
La mascotte du cabinet.
Voilà, et tout le monde l'adore. Et pourtant, c'est pas le plus sympa des chats, mais les gens l'adorent.
C'est... Eh bien, merci, docteur Charlet. Je rappelle que vous êtes vétérinaire installé à Saint-Denis-les-Bourgs. Chers auditeurs, notre prochaine chronique traitera de parents experts. Nous découvrirons ce qui se cache derrière cette expression qui concerne des parents d'enfants handicapés. Ils sont devenus experts pour différentes raisons que nous découvrirons. Leur expertise parentale leur permet de s'exprimer et de dialoguer avec le corps médical, les institutions sociales et beaucoup d'autres organisations. À bientôt sur Radio B.